Bonjour à tous. Comme il a dit, mon nom c'est Timothée de Surchère. Je suis pasteur à l'église SOS. On est presque voisins. Et puis c'est vraiment une immense joie pour moi d'être là ce matin. Et j'aimerais vraiment vous dire que c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être parmi vous. Parce que ce lieu pour moi, c'est pas juste un lieu comme un autre. Mais quand j'étais encore jeune à l'époque, j'ai passé beaucoup de temps ici en fait dans ces locaux. J'ai vécu vraiment des belles choses à l'époque du groupe de jeunes, J'y crois, que beaucoup d'entre vous connaissez certainement, vous avez déjà entendu parler. On a passé des soirées aussi ici, on a vécu des temps forts avec Dieu, et en fait cet endroit ici m'a marqué en fait, et puis positivement j'ai vécu des choses fortes avec Dieu, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un privilège d'être là ce matin, dans ces lieux, parce qu'en plus de voir des belles personnes comme vous, ça signifie beaucoup pour moi d'être là avec vous. J'amène aussi les salutations de l'église SOS à Bienne, qui vivent un culte en ce moment même, où on parle. On est juste vers Otto-le-Soldeur. Et puis, encore une fois, merci aussi aux responsables de l'Église pour l'invitation. Et j'ai vraiment un passage sur mon cœur que j'aimerais vous partager ce matin. D'où c'est que ça vient, ce message? Il est né un petit peu parce qu'en fin d'année, souvent, au mois de novembre, il y a souvent le dimanche de l'Église persécutée. Et puis, je dis toujours qu'à côté de la Bible, parce que la Bible, bien sûr, c'est ce qui m'inspire le plus, je veux dire, pour mes messages, mais après la Bible, souvent ce qui m'encourage le plus ou ce qui m'inspire le plus, ce qui m'enseigne le plus, c'est les témoignages et puis le vécu et puis la façon de vivre de nos frères et sœurs qui payent souvent un prix plus important que nous dans les pays d'où ils viennent. Il faut que je le mette un peu plus près, c'est ça, hein? Ouais. Tu me le redis sinon, hein? J'ai cette mauvaise habitude de garder le micro assez loin. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans des pays... avec l'organisation missionnaire de SOS aussi, dans des pays où la foi, elle coûte cher. Comme le Pakistan, j'ai pu m'y rendre deux fois. Je suis allé en Éthiopie, dans l'Est, tout près de la frontière en Somalie. Un endroit où, quelque part, être chrétien ou suivre Jésus coûte cher, contrairement à ici. Et puis, c'est souvent là-bas que j'ai rencontré les personnes qui ressemblaient le plus à Jésus. Au Pakistan, par exemple, les chrétiens, souvent, ils sont classifiés comme des citoyens de deuxième classe. Il y a beaucoup de choses auxquelles ils n'ont pas accès dans le monde du travail, dans des privilèges de la société, etc. Ils sont souvent réduits à devoir nettoyer les égouts, à presque un esclavage en faisant des briques. On a des églises aussi en Éthiopie, mais dans la partie justement difficile, qui est tout proche de la Somalie, qui est à 99,9% musulmane. Et puis, on a des pasteurs là-bas. Et c'est des gens qui sont menacés de mort quasi toutes les semaines. Et puis pourtant, c'est les personnes qui sourient le plus que je connais. Et puis qui ont une joie dans le Seigneur, bien plus que nous qui avons tellement d'options, de loyauté souvent et de possibilités. Eux, ils n'ont que Jésus et ils ont réalisé que Jésus était plus que suffisant. Et ça, c'est un peu notre défi ici en Occident, si on est honnête. C'est que voilà, on a beaucoup de possibilités. Tellement d'opportunités aujourd'hui, on peut aller sur Netflix, on ne doit même plus attendre une certaine heure la semaine pour regarder un film, on veut manger, on peut même commander avec Uber Eats maintenant ici à Bienne, je veux dire, en quelques minutes c'est livré, on est habitué à avoir un peu ce qu'on veut quand on le veut. Et puis c'est vrai que ce message il est enraciné un petit peu dans l'exemple que j'observe chez ces personnes qui m'inspirent, qui m'enseignent beaucoup, des amis aussi, que je vois vivre leur foi, et moi ça m'encourage énormément et j'espère que ça, et je crois que ça va vous encourager aussi. Une des plus grandes différences entre la façon dont le christianisme il est présenté au Moyen-Orient ou dans certaines parties d'Afrique ou en Asie et l'Occident ici, en fait, une des plus grandes différences, c'est justement la façon dont il est présenté. Souvent ici, on pense qu'en choisissant Jésus, ou des fois on a cette fausse croyance de se dire, en fait, Jésus va rendre ma vie plus facile. En fait, quand j'aurai Jésus, j'aurai moins de problèmes. Et en fait, ce n'est pas tellement vrai, d'accord ? On sera juste mieux équipé pour affronter ces problèmes. On aura juste un regard et une perspective différente de l'épreuve, de la souffrance, que lorsqu'on n'a pas Jésus dans notre vie. Mais des fois, cette abondance qu'on a, elle nous a aussi un petit peu piégés en pensant que ça allait être facile d'être chrétien. Et ce n'est pas toujours le cas. Et mon cœur dans ce message ici, c'est qu'on puisse redécouvrir la bonne perspective des moments difficiles qu'on vit dans la vie. Parce que je crois qu'il n'y a personne ici qui est immunisé ou qui n'a jamais de moments difficiles ou d'épreuves ou de tentations. Chacun d'entre nous ici, on a passé par des moments difficiles. Ils sont différents, nos tentations, elles sont différentes, nos épreuves sont différentes, certaines sont financières, certaines sont relationnelles, certaines sont peut-être dans notre santé, etc. On a tous fait face à des épreuves, mais je crois que si on reçoit ce que la Bible nous dit, parce qu'en fait dans la Bible, quand on regarde, et on n'en parle pas beaucoup en Occident, c'est qu'en fait, il y a vraiment une théologie sur le thème de la souffrance. Et on n'en parle pas beaucoup, hein, je veux dire, en Suisse. Mais si on regarde les épîtres de Pierre, et je crois qu'il est bien qualifié pour en parler, si on regarde son histoire, tout ce qu'il a traversé, il y a vraiment une théologie sur la souffrance. Et je crois que si on redécouvre la perspective biblique des moments difficiles, des épreuves qu'on doit tous affronter tôt ou tard, eh bien, ça va complètement changer notre façon de les traverser, notre façon de les affronter. Vous croyez ça? Super. Hein? Puis, si je partage ce message aussi, c'est parce que je sais qu'il y a de plus en plus de chrétiens aussi aujourd'hui qui voient ce qui se passe autour de nous. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une époque où il y a des nouvelles idéologies. Aujourd'hui, l'éthique ou la morale biblique, elle est de moins en moins tolérée. Hein, je veux dire, ici dans la société, on voit aussi qu'il y a une levée de boucliers. Puis, certains chrétiens se disent, OK, mais comment je peux être équipé pour faire face peut-être à des temps qui vont aussi devenir un petit peu plus défiants? On ne peut pas comparer ça, bien sûr, à l'Éthiopie ou au Pakistan. On ne peut pas prétendre qu'on fait face aux mêmes difficultés. Mais ce serait faux aussi de dire qu'il n'y en a pas. D'accord? Et ce message aussi, il est là, peut-être pour vous équiper, pour faire face à ces temps qui sont aussi un petit peu plus difficiles. Et je crois qu'en regardant à l'Église persécutée, à nos frères et sœurs qui sont persécutés, c'est une façon d'apprendre à vivre des temps difficiles tout en restant fidèle à Dieu. Donc voilà ici le passage principal pour ce matin, duquel j'ai envie de tirer ce message. Il se trouve dans Ésaïe, au chapitre 48, au verset 10. Je pense qu'on pourra le mettre aussi à l'écran derrière moi. Et il est dit ici, « Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. » Et en fait, c'est le titre de mon message, « La fournaise de l'adversité. » Et moi j'aime partager sur ces thèmes qui sont des fois pas faciles à entendre, parce que je crois que c'est souvent dans les passages les plus difficiles qu'on retire les meilleurs enseignements de la Bible. Pas seulement ceux qui sont faciles à entendre, pas seulement tous ceux qui nous caressent dans le sens du poil, n'est-ce pas? Et la Bible, elle a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Et la première des choses, c'est une bonne nouvelle que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que les épreuves, c'est que l'adversité, elle n'existe pas ou elle ne vient pas à toi pour te terrasser. Elle n'est pas là pour ta défaite, mais si elle est prise de la bonne manière, elle va te faire grandir. D'accord? Elle va te faire grandir, elle va te consolider. En fait, quand on lit la Bible et puis qu'on prend tout dans son contexte, on réalise même que, en fait, c'est une bonne chose, l'adversité. Et là, je parle toujours d'adversité, bien sûr, qu'on ne choisit pas. Il y a certaines adversités qui existent à cause de nos mauvaises décisions ou à cause de certaines erreurs qu'on a faites. Ce n'est pas de celle-ci que je parle ce matin, ce sera un autre message. Mais l'adversité à laquelle on a tous à faire face. La Bible dit qu'il pleut sur le bon comme sur le méchant, n'est-ce pas? Donc on a tous, à un moment donné, des circonstances où on se dit « mais ce n'est pas comme ça que je l'imaginais ». À mon âge, j'imaginais être à un autre stade de ma vie professionnelle, de ma vie relationnelle. Je pensais que je serais marié, je pensais que j'aurais une situation, je pensais que j'aurais trouvé quelqu'un. Je pensais dans une situation complètement différente et me voilà, j'ai 20 ans, 30 ans, 50 ans et je ne suis pas là où j'aurais voulu. Et puis, c'est important de savoir que Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu, il n'arrive jamais en retard. Et quand il y a une adversité qui se manifeste, si on rentre dans l'adversité avec la bonne perspective, avec la bonne compréhension, et bien en fait, au lieu d'être une occasion de chute, ça peut être une marche pour grandir et pour ressembler toujours plus à Jésus. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre ce matin. Le cœur de ce message, c'est vraiment de comprendre que quand les choses ne se passent pas toujours comme prévu, ça ne veut pas dire que Dieu est en colère contre toi. Quand il y a un échec dans la vie, quand il y a un échec à un examen, quand il y a, je veux dire, une facture non prévue qui se pointe dans la boîte aux lettres, ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de faux, que tu manques de foi ou que tu as déçu Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, je réalise que quand les temps deviennent difficiles, ils doivent se dire « mais j'ai dû décevoir Dieu, je dois manquer de foi, il doit avoir une dent contre moi, il veut m'enseigner quelque chose. » Un peu comme ce Dieu avec une longue barbe blanche, avec un bâton qui chercherait quelque part à nous corriger, à nous infliger des adversités et de la souffrance pour nous enseigner. Mais je crois que si on voit l'adversité plus comme une occasion que Dieu y prend pour nous transformer à son image, pour faire un peu de la chirurgie cardiaque, puis d'aller au fond des choses, pour que ça révèle vraiment de quel bois on se chauffe et de quoi on est fait. Parce que c'est souvent dans les moments difficiles qu'on est, quelque part, on peut faire semblant pendant longtemps, on peut montrer une bonne image quand tout va bien, mais quand ça devient difficile, on ne peut plus faire semblant. À un moment donné, il y a la réalité qui est révélée, la réalité de nos cœurs, la réalité de notre foi, la réalité de notre relation avec Dieu, la réalité de notre mariage, la réalité, je veux dire, de nos priorités, elles sont un peu plus près, d'accord. Elles sont, elles sont révélées dans les moments difficiles, d'accord ? Dans le creuset de l'épreuve, dans la fournaise de l'adversité. Hein, vous connaissez, quand on crée un métal précieux, on va le mettre dans le creuset, on va le chauffer, on va séparer les scories, on va séparer les impuretés. Dieu va nous émonder quelque part, il va couper les branches qui ne sont pas nécessaires, il a envie de nous améliorer. Le but de l'épreuve, de l'adversité, ce n'est pas notre défaite, ce n'est pas ta défaite. En fait, si on l'approche de la bonne manière, Dieu va vouloir nous construire et Dieu va vouloir nous transformer. Amen. Et regardez 1 Pierre 4:12, je parlais de Pierre justement, 1 Pierre 4:12 à 13, il nous dit ce matin, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui servit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. Ne soyez pas surpris. Pierre nous dit, c'est normal, il y a de l'adversité, il y a de la difficulté, il y a de la souffrance. En fait, c'est la vie chrétienne normale. Être surpris, c'est un petit peu comme être un soldat qui se bat pour un pays et puis qui va protéger son pays et puis il va se dire, mais pourquoi on me tire dessus? En fait, c'est normal, tu es en guerre, c'est normal. Je veux dire, il y a quelqu'un, je veux dire, qui en veut à ta vie, il y a quelqu'un qui veut t'arrêter, qui veut te stopper. Et puis là, Pierre nous dit, ne soyez pas surpris. En fait, ce qu'il dit, c'est normal. Il y a de l'adversité, il y a des épreuves, il y a des moments qui sont plus difficiles. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Et maintenant, j'ai juste trois clés, trois points ou trois bénéfices, on peut dire, qui proviennent du fait d'affronter l'épreuve avec la bonne perspective. Si on reçoit l'enseignement de la Bible par rapport aux difficultés, par rapport à l'attente, par rapport à la souffrance, par rapport à la tentation, puis qu'on comprend que ce n'est pas Dieu forcément qui l'envoie, ça je tiens à le préciser aussi, Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. La Bible nous dit qu'il ne peut lui-même pas être tenté, qu'il ne tente personne, qu'il est le Père des Lumières, qu'il n'y a que des dons parfaits, des bonnes choses qui viennent de lui. D'accord ? Mais la vérité, c'est qu'il nous arrive quand même des bricoles de temps en temps. Ça veut dire qu'au moins, il le permet. Même si on n'est pas l'auteur, il le permet. Mais il y a aussi un verset dans Corinthiens qui dit qu'il ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et ça, c'est aussi un verset qui m'a beaucoup béni, qui m'a beaucoup encouragé. C'est de savoir que, quelle que soit l'épreuve, Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de ce que je peux supporter. Et cette vérité, en fait, elle devient une force dans ma vie, dans ta vie, si tu la comprends. Parce que si tu ne la connais pas, quelque part, tu peux dire, là, je suis éprouvé au-delà de mes forces. Mais la Bible dit non. Si tu es éprouvé, si tu es dans la fournaise, je suis avec toi dans la fournaise. Je suis ce quatrième homme qui est présent dans la fournaise. Je ne vais pas te laisser tomber. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est fidèle, même dans l'épreuve. Et puis, ces fameux trois bénéfices, on va commencer avec le premier, cette première promesse, ce premier bénéfice qui provient de l'épreuve quand on l'appréhende de la bonne manière, c'est en fait que l'adversité, elle va te forger. L'adversité va te faire, va te transformer, va te construire. Et souvent, quand on parle de l'Église persécutée, on a l'habitude de ces témoignages, vous savez, ces témoignages, je veux dire, extraordinaires, ou soit c'est des martyrs qui donnent leur vie, un peu à la Jean-Baptiste, hein, qui se font couper la tête, ou alors des délivrances extraordinaires, comme Joseph, quand il était dans la prison et il devient Premier ministre. On aime bien ces témoignages incroyables, mais pour chaque témoignage incroyable comme ceux-là, il y en a 1000 de persévérance. D'accord ? Pour chaque témoignage de délivrance ou de guérison extraordinaire ou de victoire incroyable, il y en a 1000 de gens qui simplement persévèrent malgré les épreuves. Et c'est de ça que j'ai envie. C'est peut-être moins sexy un petit peu à entendre, hein, je veux dire moins impressionnant, moins Hollywood, mais en même temps, c'est important qu'on l'entende quand même. Mais on aime bien souvent nourrir notre foi de témoignages incroyables. Et puis souvent on se dit, mais pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Pourquoi moi je n'expérimente pas ça? Mais regardons aux 1000 autres qui persévèrent simplement malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré l'adversité. Et puis dans le livre des Actes, on voit aussi qu'ils s'encourageaient les uns les autres. Dans Actes 14, 22, il est dit ici, ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi. Et maintenant regardez comment ils les encourageaient à persévérer en disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pas très encourageant, vous allez me dire. Nous, les Occidentaux, on a de la peine à être encouragés par ça. Mais il y a aussi un autre passage dans la Bible qui parle du fait d'être équipé de la pensée de Christ. Et puis, c'est aussi dans Pierre, dans l'épître de Pierre, où Pierre il dit, mais soyez équipés de la pensée de Christ. Christ, lui, il savait qu'il allait souffrir. Et celui qui a déjà souffert en a terminé avec le péché, dit ce passage. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si on sait que la vie, elle ne va pas toujours être facile, si on sait qu'il n'y a pas toujours tout le monde qui va nous applaudir, si on sait qu'il n'y a pas tout le temps tout le monde qui sera d'accord avec nous, qui sera fan de nous, eh bien, on est équipé dans notre pensée pour affronter le futur. Ça fait penser un petit peu à, imaginez, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des fans du hockey club de Bienne, moi je ne suis pas du tout un grand spécialiste, mais imaginez le gardien, aussi compétent qu'il soit, il vient devant les buts en sous-vêtements. Il va passer un sale quart d'heure, vous êtes d'accord ? Mais s'il met, je veux dire, tout son attirail, son casque et puis tout son équipement, eh bien, il est équipé avec la pensée de Christ parce qu'il sait qu'on va lui tirer dessus. Il sait qu'il va recevoir le puck à un moment donné, n'est-ce pas ? Mais il n'a pas peur parce qu'il est équipé. Et quand on est prêt à affronter la difficulté, quand on sait dans notre cœur, dans notre pensée, que ça ne va pas toujours être facile, qu'il y a parfois des gens qui ne vont pas toujours aller dans le même sens que nous, eh bien, en fait, on est équipé avec la pensée de Christ. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On est surpris par la fournaise qui sévit parmi nous, comme c'était dit juste avant. Et là, on voit dans Romains 5, 3 à 5, il est dit, bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant, et regardez, une autre promesse, la détresse produit la persévérance. L'adversité nous forge, les difficultés nous forgent, on a même besoin d'adversité quelque part, d'accord ? En dose bien réglée, bien sûr. La détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez vu ce que produit l'adversité, la détresse ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut en arriver à un point où non seulement on n'est pas seulement équipé, mais on peut même se réjouir parce qu'on a déjà traversé d'autres épreuves, on a expérimenté la fidélité de Dieu, on a vu que notre foi elle a été épurée, on a vu que notre caractère elle a été transformé, que notre patience elle a augmenté. Quelque part on se dit, mais voilà, je ressors grandi de ce temps d'épreuve. En fait, j'en aimerais, ça ne me dérange pas s'il y en aurait d'autres. Toujours, bien sûr, à la dose que Dieu a prévue pour pas que ça nous éprouve au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Mais d'avoir cette révélation que l'épreuve ou l'adversité, elle n'est pas là pour notre défaite, mais pour notre maturation, pour notre transformation, pour qu'on ressemble toujours plus à Jésus, c'est important dans la vie d'un chrétien, qu'on puisse marcher sur cette fondation, sur cette vérité-là. Ça me fait penser aussi à cette histoire que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez de Jésus quand il dormait dans la barque, et il y a une tempête qui s'est levée. Et souvent, on prend toujours cet exemple pour dire, regardez, notre Jésus, il s'est calmé des tempêtes. Notre Jésus, il est plus fort que les tempêtes. Mais si on étudie vraiment le passage, on regardera que Jésus, il n'avait pas forcément prévu de calmer cette tempête. Lui, il dormait sur ses deux oreilles dans la barque. Il y a les disciples qui se sont mis à paniquer, puis à dire, mais Seigneur, est-ce que tu ne te soucies pas de nous ? Sérieusement, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir ? Est-ce que tu ne te préoccupes pas de nous ? Et nous, on est souvent comme ça. Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette situation ? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ? C'est injuste ce qui se passe. C'est exactement comme ça que les disciples, ils ont réagi avec Jésus. Lui, il dormait bien, malgré la tempête. Lui, il avait la paix, malgré les circonstances. Et à un moment donné, il en a un peu marre, il s'est levé, il a calmé la tempête, et puis il a un peu corrigé les disciples. Il leur a dit, mais pourquoi vous manquez de foi comme ça ? Ce qu'on peut retirer de cette histoire-là aussi, c'est que le but de Jésus, ce n'est pas toujours de calmer nos tempêtes, ce n'est pas toujours de nous délivrer de nos difficultés. Des fois, Jésus nous dit, je ne veux pas te délivrer, je veux te développer. Je ne veux pas juste rendre ta vie facile. Ça fait penser un peu au curling, on est très fort en Suisse. Vous savez, ceux qui lissent toujours devant le puck, je ne sais pas comment on appelle ça, quand il y a cet immense truc qui est lancé là. Et nous, on aimerait que Dieu, c'est ceux qui sont devant là, puis qui donnent des coups de balai comme ça. Il faut qu'on puisse glisser jusque dans le paradis, il faut que ce soit facile. Hein. Ici, il faut qu'on puisse glisser dans la vie, il faut que ça aille tout seul, Dieu me bénit, Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est pas ce que la Bible nous présente. Et puis quelque part, Jésus, il corrige un tout petit peu les disciples, les grondent un petit peu, ils disent, mais pourquoi vous doutez de moi ? Pourquoi est-ce que vous mettez des intentions sur moi dans ce moment-là, alors que je n'ai jamais eu de mauvaises intentions ? Au contraire, ce que j'aimerais, ce n'est pas de toujours d'amener le calme autour de vous, mais le calme en vous, malgré les circonstances. J'aimerais créer un calme et une paix et une joie en vous, qui ne dépend pas des circonstances. Parce qu'il est possible d'être dans une vie où il y a une tempête autour de nous, tout en ayant la paix à l'intérieur de nous. On dit souvent, vous connaissez cette expression, c'est pas l'eau qui se trouve autour de la barque qui est dangereuse. C'est l'eau qui rentre dans la barque. L'eau qui se trouve autour de la barque, elle fait en sorte que le bateau, il flotte. Mais l'eau qui va rentrer dans la barque va faire couler le bateau. Et c'est exactement la même chose. Dieu, il nous a donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, n'est-ce pas? Il nous a donné cet équipement pour faire face aux adversités de la vie. Et puis, on doit arrêter de toujours seulement demander de lisser nos circonstances, de faciliter. Bien sûr, Dieu est aussi le Dieu qui délivre. Bien sûr, Jésus est le Jésus qui calme les tempêtes. Et bien sûr qu'il le fait aussi par amour. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut stimuler, chercher les tempêtes, chercher la persécution. Pas du tout, d'accord? Elle vient à nous déjà bien assez sans qu'on la cherche. La Bible nous dit d'être en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que ça dépend de nous. Ce n'est pas à nous d'aller chercher les problèmes non plus. Ce ne serait pas biblique. Mais ce qu'il veut, c'est créer une qualité de paix, de joie dans notre vie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas du fait d'être promu, je dirais, à notre place de travail ou de recevoir un 13e ou pas, ou d'être parfois, je dirais, seulement tout le temps en bonne santé, même que bien sûr je crois dans la guérison divine, je crois que Dieu est un Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Mais que nos circonstances n'affectent pas notre façon de voir Dieu, qu'on arrête d'interpréter le caractère de Dieu en fonction de ce qui nous arrive. Ah, mon compte en banque, il est bien plein, Dieu est bon. Ah, j'ai une dette, Dieu m'en veut. Non, mais ça n'a rien à voir, d'accord? Il ne faut pas qu'on juge le caractère et le cœur de Dieu aux circonstances. On sait qui est le prince de ce monde, n'est-ce pas? On sait aussi qui c'est qui a le dernier mot, on sait qui c'est qui va gagner à la fin, mais on sait qu'il y a deux royaumes qui s'affrontent et que parfois il y a parfois des échecs apparents, mais on sait que tout à la fin, la victoire, elle nous appartient, n'est-ce pas? Mais il est possible, les amis, d'avoir la paix au milieu de la tempête. Il est possible de se réjouir au milieu de l'épreuve. La Bible nous le promet. Donc c'est possible. Et si on arrive à s'équiper avec cette pensée de Christ, eh bien on arrivera à affronter des situations difficiles sans pour autant douter de la bonté de Dieu, douter des intentions de Dieu. Mais au contraire, chaque fois qu'on sera... Peut-être que vous savez, Paul, il parle de cette écharpe dans la chair. Beaucoup interprètent ça comme une maladie. Moi, je pense que ce n'est pas une maladie. Moi, je pense qu'il parle plutôt d'une situation, je veux dire, dont il est difficile de se séparer. Ça peut être une relation, peut-être dans ton mariage, peut-être ton beau-père, ta belle-mère. On ne choisit pas sa famille, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et puis parfois, les choses ne se passent pas toujours bien. On ne choisit pas pour les autres, l'attitude, le caractère. Et puis, il y a des choses qui sont dans nos vies et qui sont comme une écharde et puis qui sont difficiles à vivre. Et là, Dieu nous dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, n'est-ce pas? Et on verra qu'on peut voir des situations, au lieu de toujours voir les gens comme nos ennemis, des activistes comme nos ennemis, des politiciens comme nos ennemis, la Bible nous dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas nos ennemis. On doit comprendre ça aussi. On se trompe de cible quand on pense que c'est les gens, que c'est un politicien qui se trouve à l'autre bout du spectre duquel nous on est, ou un activiste qui fait des choses que nous on n'aime pas du tout, alors que c'est une personne pour laquelle Christ est mort. Et qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Mais de la même manière, je crois qu'on doit apprendre à voir les circonstances comme Dieu les voit. Les gens comme Dieu les voit, n'est-ce pas? Et même une situation qui nous poursuit parfois, une relation, une situation dont on n'arrive pas à se débarrasser, si on la voit comme Dieu la voit, elle peut nous enseigner quelque chose. Et on peut grandir en lui, dans notre patience, dans notre persévérance. Amen. La deuxième clé, le deuxième bénéfice qu'on peut recevoir de l'adversité, de la difficulté, de la souffrance, quand on l'appréhende comme la Bible nous encourage de le faire, c'est qu'en fait, elle peut nous amener plus près de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a besoin de souffrance pour arriver près de Dieu? Ce n'est pas ça que j'ai dit, mais si la souffrance est appréhendée d'une manière biblique, elle peut nous emmener plus près du cœur de Dieu. D'accord? Philippiens 3:10 nous dit, c'est Paul qui dit, « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Je veux connaître Christ. » On voit le cri du cœur de Paul. Et vous vous souvenez que Paul, avant c'était Saul, hein, il était Saul de Tars, c'était un érudit, c'était quelqu'un qui avait tout pour lui. C'est quelqu'un qui faisait partie de l'élite religieuse, il était respecté, il était honoré, il était à l'abri du besoin. Il avait de l'argent, il avait de la réputation, il avait une place dans la société, les gens l'honoraient, le regardaient, prenaient exemple sur lui, c'était un homme important. Mais un jour, il a rencontré Jésus sur le chemin qui mène à Damas. Et là, il a vu les yeux de Jésus, il a rencontré Jésus, il a réalisé que tout ce qu'il avait, en fait, c'était comme des ordures. Il le dit ailleurs dans la Bible. Il a laissé ça pour pouvoir gagner Christ, parce qu'il a vu Jésus. À l'époque, il ne connaissait pas Dieu. Il le connaissait de manière intellectuelle, il le connaissait à travers des écrits, mais il ne le connaissait pas personnellement. Et là, il a rencontré Jésus alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter d'autres chrétiens. Il a vu Jésus et il a abandonné tout ce qui comptait pour lui auparavant. Et il a choisi la persécution, il a choisi le rejet, il a choisi la souffrance, il a choisi l'adversité, parce qu'il savait que Jésus en valait la peine, n'est-ce pas? Et quelque part dans cette partie de la parole de Dieu ici dans Philippiens 3.10, on voit qu'il aspire à connaître Christ, la puissance de sa résurrection et même la communion à ses souffrances. Ça, c'est des choses qu'on entend rarement ici en Occident, n'est-ce pas? J'aimerais connaître la communion. Ici, nous, on aime bien dire, moi, je veux connaître la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'on est aussi prêt à connaître la communion à ses souffrances? Est-ce qu'on est aussi prêt à rester fidèle, pas quand on reçoit seulement des bénédictions, quand nos tempêtes se calment, quand on est délivré de nos difficultés, mais aussi au milieu de la difficulté, est-ce qu'on arrive à dire, Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, je sais que tu ne changes pas, je sais que ma vie est dans la paume de tes mains, je sais qu'un jour je serai avec toi, tu comptes plus pour moi que ce qui tombe le 25 du mois sur mon compte en banque. Tu comptes plus pour moi que toutes mes relations. Tu comptes plus pour moi que tous mes accomplissements. C'est toi qui comptes plus, même si ça doit me coûter quelque chose. Et parfois, quand on prend position pour Jésus, ça nous coûte parfois quelque chose, n'est-ce pas? Et donc, on voit que quand Paul il a rencontré Jésus, tout a changé pour lui. Et ça devrait aussi être le but pour nous, d'essayer de le connaître. Mais pour nous, c'est difficile en Occident parce qu'on a tellement de choses. On a souvent un appartement, une maison, que ce soit en location ou peut-être même en possession. Et parfois on a même deux voitures. Nous, on a deux voitures, je veux dire. Mais on est béni. Et puis, c'est difficile. Il y a toutes ces loyautés, toutes ces fréquences, toutes ces voix. On se dit, mais lesquelles on doit écouter? Qu'est-ce qu'on doit suivre? Des fois, c'est vrai. Je veux dire, la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux leur appartient ». Et puis, dans l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup plus de pauvres qui ont suivi Jésus ou Dieu que des riches. Parce que la Bible, elle dit malheur aux riches, parce qu'il est plus difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Ça ne parle pas seulement d'être sauvé ici, ça parle de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a tellement d'opportunités, quand on a tellement de choses sur lesquelles on peut choisir, quand on a de l'argent, quand on a une éducation, très facilement on peut mettre notre confiance dans ces choses-là. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui me suis acheté cette voiture. C'est moi qui me suis fait comme un self-made man un petit peu. Mais peut-être que les meilleurs chirurgiens, peut-être que les meilleurs chirurgiens, c'est les meilleurs potentiels chirurgiens ou même les meilleurs potentiels chanteurs ou leaders de louange ou même pasteurs. Peut-être qu'ils sont dans des pays où la foi elle coûte et puis qu'ils n'ont jamais eu l'occasion et ils n'auront peut-être jamais l'occasion de le vivre. Et nous ici, on parle toujours d'atteindre son plein potentiel. Je veux rentrer dans mon appel. Alors que notre premier appel, c'est de devenir comme Jésus. D'accord? C'est notre appel de devenir des disciples, de lui ressembler. Avant d'avoir une étiquette, avant d'avoir un nom, avant d'avoir un grand titre devant les hommes ou quoi que ce soit, c'est de devenir comme Jésus. Le reste après, ça lui appartient, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense que dans l'épreuve, dans la souffrance, il y a un endroit où si on regarde avec le cœur de Dieu, on peut même se rapprocher de lui. Parce que quand on nous a tout enlevé ce qu'on avait, eh bien, c'est vraiment une opportunité de se rapprocher de Dieu en fait, parce qu'on n'a plus que lui, n'est-ce pas? C'est important de comprendre cela. Et quand on expérimente la fidélité de Dieu, quand on expérimente la bonté de Dieu, quand les choses deviennent difficiles. Nous, par exemple, on a dû attendre 8 ans pour avoir notre premier enfant avec mon épouse. Et puis, pendant 8 ans, il y avait ce combat aussi, surtout dans le cœur de ma femme. Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Est-ce que j'ai déçu Dieu? 8 ans avant de voir le museau de notre premier bébé. Et puis aujourd'hui, on a deux merveilleux garçons. On a un peu des vieux parents, mais on est heureux. Vieux, mais heureux. On n'est pas vieux, mais un peu plus. On aurait voulu les avoir un peu avant. Donc maintenant, ça nous coûte un peu plus de se lever la nuit, mais on est heureux parce que Dieu a été bon avec nous. Et puis dans cette saison, il nous a épurés, il nous a affinés. On a continué de dire, Seigneur, on croit que c'est ta volonté. Seigneur, on croit que tu es bon. Seigneur, on croit que ta fidélité, elle demeure malgré les circonstances. Et aujourd'hui, notre test s'est transformé en un témoignage pour qu'on puisse encourager d'autres personnes autour de nous. Amen. Chaque chrétien est appelé à porter sa croix. Cette croix, elle va amener des blessures, mais ces blessures, elles vont nous rapprocher de Dieu. Troisième et dernier point, troisième et dernière récompense ou bénéfice qu'on peut recevoir si on appréhende les épreuves, l'adversité avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu, c'est que l'adversité amène même une récompense en fait. Et dans Apocalypse 2:10, il y a une promesse qui est là, qui nous dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. » Donc vous voyez aussi là, moi ce que je vois dans ce texte, on voit qu'il y a une souffrance, le diable en est l'auteur, mais Dieu va l'utiliser. Vous voyez ça? Vous savez, une des pires choses qui arrive dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, c'est que quand il pense que Dieu est l'auteur de la souffrance, que Dieu inflige des maladies, tiens un petit concert pour que tu apprennes un petit peu à devenir fidèle. Vous pensez vraiment que Dieu il est comme ça? Je veux dire, moi quand je vois mes enfants et ils sont dans une phase où ils obéissent vraiment pas tout le temps, je vous garantis, on vient de passer un samedi où c'était défiant, c'était sport, mais est-ce que j'ai envie de lui infliger une maladie parce qu'il m'a désobéi quelques fois? Ça reste mon fils, je l'aime. Quand on se couche le soir, je l'aime. Même qu'il n'a pas été fidèle toute la journée, même qu'il n'a pas suivi le code toute la journée, ça reste mon enfant. Et Dieu nous aime bien plus que ce que nous, on aime nos enfants. Alors ne pensez pas parce que les choses sont parfois difficiles ou parce que peut-être même vous avez fauté ou vous êtes tombé ou vous avez pris des mauvaises décisions. Dieu vous aime. Relevez-vous, retournez vers lui. Le pire, c'est de croire que Dieu nous en veut, alors on va s'éloigner de lui. Vous savez, j'avais entendu dire une fois quelqu'un qui disait, puis je trouve ça bien, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui disent, j'ai fait une bêtise, il faut tout de suite que j'aille en parler à mon papa. Et il y a les autres qui disent, j'ai fait une bêtise, il faut surtout que mon papa ne le sache pas. La bonne, c'est la première, hein, d'accord. Je veux dire, Dieu, il sait toute chose. Vous voulez quand même pas lui cacher quelque chose, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe dans le secret de votre chambre, tout ce que vous avez vu, que vous n'auriez pas dû regarder, entendu, que vous n'auriez pas dû entendre ou dit, que vous n'auriez pas dû dire, il le sait. À quoi bon le cacher? À quoi bon se flageller pendant quelques semaines puis essayer de construire notre propre justice puis de revenir vers Dieu en disant, voilà, je me suis un peu réparé, je viens maintenant. Non, allons tel qu'on est devant lui en disant, Seigneur, voilà, tel que je suis insuffisant, mais je sais qu'en toi, je suis pardonné. En toi, j'ai la vie éternelle. En toi, je suis une nouvelle personne, une nouvelle création. En toi, j'ai une deuxième, une troisième chance. N'est-ce pas? Mais on voit ici que même que le diable est l'auteur de certaines souffrances, eh bien Dieu va les permettre, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va les retourner contre le diable, il va les utiliser à votre avantage. Le diable, quand il avait crucifié Jésus sur une croix, il s'est dit, c'est bon, je me suis débarrassé de lui, c'est terminé. Et le symbole même de la malédiction, ce qui aux yeux des Juifs était une malédiction, ce qui aux yeux des Grecs était une humiliation, un criminel, eh bien Dieu il a pris le bois de cette croix et il l'a transformé en une porte qui nous mène au salut. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et Dieu, il travaille toujours comme ça, il va toujours confondre l'ennemi. Il aura toujours un coup d'avance. De la même manière avec toi, quelle que soit l'épreuve que tu as traversée, quelles que soient les plumes que tu as laissées, quelles que soient les marques avec lesquelles, les bagages avec lesquels tu te déplaces aujourd'hui, Dieu peut prendre un vase brisé et en faire une belle mosaïque. Amen. Dieu peut transformer ce qui était ton plus grand échec, ta plus grande faiblesse, et peut en faire un témoignage, il peut en faire une bénédiction pour ceux qui viendront après toi. D'accord? Ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il y a une récompense. Si on court notre course jusqu'à la fin, les amis, on n'est pas là pour juste briller pendant 2-3 ans. On est là pour courir notre course jusqu'à la fin, pour être fidèle jusqu'à la fin. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'on peut se confier en lui. Amen. Parce que 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève. C'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. N'est-ce pas? Il est fidèle. Et ces paroles ici, elles ont été déclarées sur l'église de Smyrne à l'époque. Et puis Smyrne, ça se trouvait dans l'Empire romain, si je ne me trompe pas. Et puis l'Empire romain était connu pour ses jeux athlétiques. Et puis vous savez, dans le monde romain, la plus grande récompense, c'était cette couronne qu'on recevait, je veux dire, quand on arrivait au bout de ces jeux athlétiques. C'était un petit peu comme être adoubé comme un chevalier en Angleterre. Et bien cette couronne-là, c'était cette plus grande récompense, c'était la récompense ultime, d'accord? Mais ce que Jean il essaie de dire ici, c'est qu'en étant fidèle dans notre course chrétienne jusqu'à la fin, sans se comparer aux autres, sans regarder les autres qui sont déjà plus loin que nous, mais simplement en étant fidèle, en courant notre course, et bien on recevra une couronne qui ne va pas se flétrir, une couronne qui ne va pas rouiller, une couronne qu'on ne pourra pas nous voler, une couronne céleste, une couronne divine, une couronne éternelle. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on vit? de voir Jésus-Christ un jour dans les yeux et de dire, maintenant on sera pour l'éternité avec lui. Ça, c'est ce pourquoi on vit, n'est-ce pas? Et puis, ça, c'est la récompense qu'on va recevoir. Apocalypse 3, 10 à 11, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » On voit que la persévérance, elle a une place importante. Donc, encore une fois, je reviens à l'église persécutée, on voit les délivrances, on voit les tempêtes qui se calment, on voit les chaînes qui se brisent, on voit... Mais il y en a mille qui persévèrent malgré les épreuves. Soyons de ceux qui persévéreront. Et si vous avez qu'une semaine plus difficile, un mois plus difficile, relevez-vous, retournez vers le cœur de Dieu. Il va vous accueillir, il va vous encourager, il va vous prendre par la main. Amen. Il va parcourir cette course avec vous. Et pour conclure, je relis encore une fois Ésaïe 48, 10. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Dieu ne nous exploite pas. Dieu ne nous manipule pas. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. L'adversité peut te forger, elle va te forger. L'adversité va t'emmener plus proche du cœur de Dieu. Et l'adversité peut même emmener une récompense avec elle. Donc souviens-toi, alors que je termine ce message ce matin, que lorsque la vie devient plus difficile, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est pas que Dieu t'en veut, c'est pas que Dieu est déçu de toi, c'est pas que Dieu veut t'enseigner à la dure quelque chose. Mais non, c'est un privilège. Il dit même « réjouissez-vous » parce que cette épreuve, elle va produire de la persévérance. Elle va te consolider sur ta fondation. Et puis, elle ne sera pas liée aux émotions. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Est-ce que je me sens bien? Nous, des fois, on se dit, mais elle est belle cette louange. Je sens la présence de Dieu. C'est magnifique. Tout le monde dit Alléluia. Tout le monde lève les mains. Je sens la présence de Dieu. Puis après, on sort, puis ça devient un peu plus difficile. On se dit, je ne sens pas la présence de Dieu. Ça, c'est quand on est charnel. C'est quand on se confie dans nos émotions. La Bible nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas. D'accord? Il est fidèle. Donc Dieu ne te punit pas, mais Dieu veut t'équiper avec une perspective biblique pour que lorsque tu rentres dans les moments difficiles de la vie, tu puisses même dans le futur peut-être même te frotter les mains en disant « Je sais que c'est un combat gagné d'avance, ça ne va peut-être pas être facile, mais je sais que si je rentre dedans avec la perspective de Dieu, ça va m'émonder, ça va me purifier, ça va me transformer, ça va m'amener plus proche du cœur de Dieu. » Amen. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous, encore avant de terminer ? Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui nous aime malgré les circonstances. Merci parce que nos circonstances ne sont pas, Seigneur, une explication ou une démonstration de ton caractère. C'est ta parole qui est une démonstration de ton caractère. Et c'est sur celle-ci qu'on choisit, Seigneur, de construire nos vies, et non pas sur ce qui, nos succès, nos échecs, nos accomplissements personnels ou quoi que ce soit, mais sur ta parole qui nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, que tu es fidèle, que tu ne changes pas, que ton amour est inconditionnel, Seigneur, que tu nous aimes comme la prunelle de tes yeux, que tu aimes jusqu'à la jalousie l'esprit que tu as placé en nous, Seigneur. Et que tu as préféré donner ta vie à la croix plutôt que de passer l'éternité sans nous. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour toutes les personnes qui sont là et qui peut-être justement en ce moment passent par des moments difficiles, passent par des temps d'épreuve, qui sont éprouvés dans le creuset. Je te prie pour tous ceux qui peut-être sont partis sur le mauvais rail en se disant « mais j'ai dû faire quelque chose de faux, je ne dois pas être à la hauteur, je dois manquer de foi ou de sainteté ou quoi que ce soit. » Seigneur, dans le nom de Jésus, on veut démasquer ces mensonges, on veut donner place à la vérité, Seigneur. Et je te prie que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur, Seigneur, pas seulement les yeux de leur corps, mais de leur cœur, pour qu'ils puissent voir l'épreuve comme toi tu la vois, comme une opportunité non pas d'être terrassé, non pas d'être mis, non pas d'être détruit, mais d'être développé. De monter en grade, Seigneur, de prendre, Seigneur, de la maturité, de la croissance avec toi. Que ceux qui puissent voir qu'ils sont émondés, qu'ils sont purifiés, Seigneur, pour que tu puisses te révéler toujours plus à travers leur vie, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir toujours plus de compassion pour ceux qui passent par les mêmes épreuves. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, alors qu'on sort d'ici ce matin, n'ait plus jamais la même perspective de l'adversité, mais qu'on y fasse face, en étant équipé des vérités de ta parole, Seigneur, qui dit que tu es plus que vainqueur, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, que le lion qui vit en nous, le lion de Juda, est plus grand que le lion qui rugit et qui habite dans le monde. Seigneur, je déclare ta victoire, je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chaque personne ici va grandir en, vraiment dans cette révélation de ta parole, pour que le vent ou la pluie qui viendrait battre cette maison de leur vie, eh bien, elle soit fondée sur le roc et que cette pluie ne puisse pas la terrasser. Seigneur, c'est ma prière ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.